Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission au Capi Service de ce jour. Nous allons parler de l'importance du don volontaire de sang avec Dr Paul Kabamba Muninga, qui est directeur adjoint du Centre National des Transfusions Sanguines, CNTS. Dr Paul Kabamba, bonjour. Et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. On vous retrouve dans quelques instants. Des questions et préoccupations par rapport à cette thématique, appelez déjà au 099 706 9941. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Dieudonné Nyangas à la mise en onde. Et Paul Badianama est du côté multimédia, voilà, pour la diffusion live sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Encore une fois, bienvenue dans cette deuxième tranche du magazine Okapi Service qui s'intéresse aux dons bénévoles de sang. Vous savez, en RDC, le taux de dons bénévoles de sang est encore faible. Selon les dernières statistiques, on est à 38% en 36%, voilà, en 2024. Cependant, ce chiffre reste en deçà des recommandations de l'OMS qui préconise que 80% des unités des sang transfusés proviennent des dons volontaires. Selon les experts, les besoins en sang sont énormes dans nos hôpitaux à travers le pays pour remplacer le sang perdu, soit lors des hémorragies graves dues à des accidents, des interventions chirurgicales ou des complications obstétricales. Alors pourquoi est-il important de faire un don bénévole de sang? On en parle avec notre invité, il s'agit du docteur Paul Kabamba Muninga, directeur adjoint du Centre National des Transfusions Sanguines. Professeur, docteur, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission pour échanger autour de cette thématique. Alors pourquoi est-il important de faire un don bénévole de sang?
Merci beaucoup, Monsieur Jordi. Je suis très content aussi de me retrouver dans vos studios pour parler d'un sujet aussi important qui est les dons bénévoles de sang. Mmh. En fait, nous devons le savoir que nous devons donner le sang à nos malades, un sang sécurisé. D'autant plus que nous le savons très bien qu'il n'y a pas un sang artificiel. Mmh. Donc, ça dit qu'on ne peut pas prendre la tomate, l'oignon pour fabriquer, pour mélanger, fabriquer du sang. Non. Pour avoir du sang, le sang doit provenir d'une personne. Et cette personne doit être en bonne santé. Donc, c'est-à-dire que nous avons besoin de donneurs parce qu'il y a des gens, vous l'avez dit dans votre introduction, il y a des gens qui sont au décours de ce liquide-là,
oui,
qui est le sang, et pour les donner ce sang-là, on n'en fabrique pas artificiellement. Ça doit provenir d'une autre personne pour que les gens qui en ont besoin puissent en bénéficier. Voilà.
Bien. Et une autre question, voilà, faut savoir, c'est quoi le sang et quelle est son importance dans le corps humain?
En fait, le sang, nous devons dire, c'est un tissu, parce qu'un tissu liquide. Si nous parlons par rapport à l'organisation de notre corps, nous savons que nous avons des atomes cellules, ils donnent la molécule donne la cellule, et c'est la cellule qui est, en fait, l'unité fonctionnelle de base de notre organisme. Et pour que la cellule fonctionne, elle a besoin de quelque chose. L'oxygène pratiquement. Pas spécialement, parce que l'oxygène, c'est l'oxygène qui vient pour que la cellule fasse son métabolisme cellulaire. Mmh. Et nous savons, bon, les scientifiques le savent, si la cellule travaille, je ne vais pas entrer beaucoup plus dans les détails scientifiques. La cellule travaille en mode anaérobique, c'est-à-dire en absence de l'oxygène, en tout cas, la cellule a des problèmes. Ils vont avoir ce qu'on appelle une acidose métabolique. Et l'acidose métabolique va faire assez que les organes, parce que les cellules donnent, l'ensemble des cellules donnent les tissus. L'ensemble des tissus donnent l'organe. l'ensemble des organes donne l'appareil. L'ensemble des appareils donne les systèmes. Alors, quand la cellule ne fonctionne pas, c'est tout ce qui est en dessous ne fonctionne pas. Nos organes, les yeux, le cœur, tout ne fonctionne pas parce qu'il y a des cellules partout.
Oui. Et pour que ces cellules fonctionnent, il faut du sang.
Il faut que l'oxygène arrive.
Et le sang transporte l'oxygène.
Il faut que l'oxygène arrive parce qu'il y a un élément figuré, parce que le sang, c'est en fait un liquide qui a deux parties. Il y a une partie qu'on appelle solide, et la partie qui est composée des éléments figurés du sang. Il y a les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Il y a une partie qu'on appelle liquide qui est le plasma. Là où on trouve les électrolytes, les lipides, en fait, les facteurs de coagulation, c'est dans le plasma. Or, là, le globule rouge est dans le sang. C'est le globule rouge qui prend l'oxygène que nous inspirons par notre respiration, parce que la respiration a deux phases, l'inspiration et l'expiration. Au moment de l'inspiration, on prend de l'oxygène. L'oxygène qui entre, trachée, artère et jusqu'aux bronches, bronchioles, c'est l'oxygène, le sang qui vient avec les globules rouges qui capte l'oxygène. C'est là où il y a les hématoses, il y a les échanges entre les deux gaz, l'oxygène et le CO2 qu'on appelle gaz carbonique. Et c'est quand les cellules captent, les globules rouges qui captent l'oxygène, c'est les globules rouges qui amènent l'oxygène vers les cellules pour que les cellules fonctionnent.
D'accord. Donc les cellules ne peuvent pas fonctionner sans le sang.
Compliqué.
Voilà.
Très compliqué.
Voilà. Donc et pourquoi quelle est la quantité de sang dont un être humain a besoin pour être en vie, en bonne santé?
En fait, scientifiquement le calculant, nous avons un treizième plutôt de notre poids, c'est ça la quantité de sang que nous avons. Donc on calcule très bien quand une personne qui a 60 kilos et plus, il est au-delà de 4 litres. Mais c'est par rapport au poids de chaque personne qu'on calcule la quantité de sang qu'il peut avoir. Et c'est comme ça, quand nous nous prélevons, nous faisons tout pour prélever le sang pour que la personne n'ait pas de problème. Parce qu'il y a toujours, quand nous avons nos sangs, il y a toujours un 10% qui est gardé en réserve par l'organisme. Alors quand on prélève le 10%, ou bien moins de 10%, l'organisme fait ce qu'on appelle l'équilibre. Ce qui était gardé revient et le sang, l'organisme produit encore l'autre quantité de sang pour rétablir toujours cet équilibre.
Donc, si je comprends bien, vous avez besoin de sang en permanence au niveau des banques de sang pour répondre à certains besoins qui peuvent arriver.
En permanence.
En permanence, chaque jour.
Le besoin en sang pour la ville de Kinshasa, c'est 300 poches par jour, minimum. Si on doit, parce que quand on voit le besoin théorique, on le calcule, c'est par rapport à la population générale de la ville. Alors Kinshasa, nous savons qu'ils sont autour de 17 millions.
Certains parlent de 20 millions, voilà.
Alors quand on regarde 1% de ces personnes-là à donner le sang, nous avons au moins 170 000 transfusions et unités de sang à avoir. Parce que nous, d'après les statistiques, les besoins en sang, c'est les 0,75% de la population totale. Alors si nous calculons les 17%, les 0,75 sont autour de 120 000 transfusions à réaliser dans la ville-province de Kinshasa. Mais si nous prenons par exemple la République démocratique du Congo, où nous avons plus de 100 millions d'habitants, nous sommes autour de 850 000 unités de sang pour couvrir les besoins de la population qui en a besoin.
Donc pour la ville de Kinshasa, on a besoin de 300 poches de sang
par jour.
Par jour.
Oui.
Bien. Alors, une autre question est de savoir quels sont les différents types de donneurs. On parle des donneurs bénévoles. Est-ce qu'il y a d'autres types de catégories des donneurs?
Bon, ça dépend de la classification. On peut les classer en deux types ou bien en trois types. En deux types, c'est-à-dire qu'on peut parler des donneurs bénévoles et les donneurs de remplacement. Les donneurs de remplacement, c'est là où il y a les deux types aussi. Les donneurs payés et rémunérés et les donneurs familiaux. Donc, nous avons au moins trois catégories de donneurs. Les bénévoles, les familiaux et
Les rémunérés.
Les rémunérés, c'est-à-dire les payants. On les paye, après leur don, il faut leur donner de l'argent. C'est ça.
Voilà. Mais pourquoi on encourage beaucoup plus le don volontaire ou bénévole?
Oui, effectivement. Nous, le CNTS, nous travaillons avec la stratégie du don bénévole. Et on encourage ça parce que c'était le type de donneur qui offre beaucoup plus d'avantages. Parce que ce donneur-là, quand il vient, il n'a aucun bénéfice. Il n'attend aucun bénéfice. Il s'attend aucun bénéfice. C'est-à-dire, il vient donner le sang parce qu'il a été sensibilisé. Il a eu le message. Il dit que je peux donner pour sauver une vie que je ne connais pas. Et là, si vous posez des questions, s'il sait qu'il est venu pour sauver, qu'il a un comportement qu'il ne peut pas le vouloir faire de sorte qu'il donne, il va vous donner toutes les informations. Et ce sont les donneurs qui, souvent, quand on l'explique, ils font ce qu'on appelle l'auto-exclusion. Ils se disent, par rapport à ce que vous m'avez expliqué, je pense qu'il ne veut pas donner le sang. Maintenant, je reviens dans un mois. Parce qu'on a expliqué le besoin, le pourquoi de ça. Mais quand il y a des donneurs familiaux, un donneur familial vient donner rémunéré, le familial, lui, il subit la pression de la famille. Un membre de sa famille est malade.
Il est malade, voilà.
Il doit remettre les sang parce qu'on doit remettre à son... Il doit... Donc, non, prenez les sang parce que ma famille est malade.
Oui, oui, ou mon enfant,
ou mon enfant. Mais rémunéré, c'est que c'est eux... C'est, lui, il donne, il a besoin de l'argent.
Il a besoin de l'argent.
Pour lui donner, il a l'argent. Mais malheureusement, dans les catégories des familiaux qu'on utilise souvent, il y a aussi des rémunérés cachés. Parce que la famille, quand il a besoin de, quand il y a un problème à l'hôpital, on lui demande d'amener des unités de sang. Il va sortir peut-être dehors,
chercher. Dans la rue, chercher, trouver quelqu'un qui peut faire un don.
Qui peut faire un don. Mais quand il va amener à l'hôpital, on va dire non, non, j'ai amené un membre de la famille, vous le prélevez, c'est pour les besoins de son frère et de sa sœur, voilà. Mais ces gens-là ont le risque est accru à ces gens-là, de ces gens-là à transmettre les maladies. Parce qu'il peut y avoir des questions que vous pouvez poser. Lui, son besoin, c'est avoir l'argent. Vous pouvez poser des questions dans l'entretien médical et il peut donner des informations qui ne sont pas correctes. Et les gens pensent que même s'il est donneur payant ou bien familial, quand il donne le sang, on va faire les tests. Attention! Les tests ne donnent pas la garantie que cette personne est indemne de toute maladie. Parce qu'il peut arriver qu'il a contracté une maladie avec les tests que vous utilisez. On peut aller jusqu'à 3 mois sans, ça dépend des tests, aller jusqu'à 3 mois sans avoir les informations par rapport à cette unité de sang. Or, cette unité de sang peut être contaminée et on doit contaminer la personne qui sera bénéficiée de ce sang-là. C'est ça le risque qu'il y a là. C'est comme ça qu'on insiste beaucoup sur la stratégie du don bénévole, parce que ce sont les gens qui comprennent le pourquoi. Mais malheureusement, ça passe difficilement encore dans la population. C'est comme ça que vous avez remarqué que le taux, le pourcentage des dons bénévoles
est encore faible. Hein? Très faible. Bien, on va accueillir les auditeurs Franck Kapongo de Chikapa, au Kassai, et Joseph Delicacy. Franck Kapongo, bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, je dis Daniel, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kassai.
Quelle est votre préoccupation?
Moi, j'ai une préoccupation. J'ai une préoccupation, mais avant que je la pose, je dois d'abord parler à l'invité. Parce que je suis aussi donneur bénévole à Chikapa. Et ça fait maintenant le 16e don. Le mois passé, j'ai réalisé le 16e don. Et moi, je comprends que être donneur bénévole, d'abord, c'est une conscience qui doit travailler. La conscience qui doit travailler parce que on a un principe, quand on donne le sang, c'est pour sauver une vie. Et la vie qui demeure encore inconnue, c'est-à-dire nous aidons la population en donnant notre sang. Mais quelque chose que j'avais remarqué, qui me rend vraiment un peu perplexe, c'est parce que nous, quand on donne le sang, on les donne gratuitement. Mais dès qu'il y a le bénéficiaire qui arrive, le bénéficiaire en soi, pour recevoir ce sang-là, ça demande vraiment beaucoup de formules, il faut donner telle autre chose. Donc, on comprend que la conscience de ceux-là que nous sommes en train d'aider pour qu'ils aident aussi la population n'est pas vraiment tranquille. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je voulais un peu parler sur nous qui sommes donneurs. Parce que pour que nous puissions sensibiliser la population et aussi certaines personnes afin qu'ils puissent adhérer à notre idéologie d'être des donneurs, je voulais dire. Et en tout cas, ça devient vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que nous, on nous garantit d'abord que dès que vous êtes donneur et que vous avez un membre de votre famille qui est malade, le fils, pour qu'il soit traité, ça doit passer gratuitement. Et quand nous venons aussi à la cité pour conseiller aussi la population ou bien les gens que nous trouvons à la cité pour que le nombre de donneurs augmente, on arrive là, on commence à prêcher par l'exemple. On dit, non, vous voyez, même si on ne vous paye pas, nous, on donne la vie. Et on donne le sang gratuitement pour sauver une vie. Mais en cas de besoin, si vous avez un malade de votre famille, on peut le traiter gratuitement. Donc, on vient presser par là. Et vous comprendrez qu'il y a des gens qui adhèrent. Mais au moment où il faut traiter un membre de votre famille, en tant que un membre venant de la famille d'un donneur, vous comprendrez que vous allez toujours commencer à dépenser l'argent. Et on vous traite toujours comme tout le monde. Donc, c'est là de déstabiliser un peu la conscience de nous qui sommes d'abord donneurs. Et on se demande pourquoi on est donneur au moment où nous donnons gratuitement pour que, lorsqu'il y a un peu quelque chose comme assistance ou aide pour nos membres des familles, qu'on nous aide aussi, vous trouvez toujours que la vie des mères est toujours compliquée.
Bien, et merci Franck.
Je voulais poser à l'invité.
Rapidement, Franck.
Je voulais poser la question à l'invité.
Oui.
Monsieur l'invité, si vous pouvez conseiller la population, c'est parce que c'est vous qui êtes invité là-bas. Si vous pouvez conseiller les médecins, pourquoi ils ne parviennent pas vraiment à créer des structures qui peuvent accueillir les donneurs pour qu'on ait vraiment une structure bien connue dans des provinces, comme nous sommes dans la province du Kasaï, là, nous avons une structure ici, c'est pour les donneurs, et ça va aussi encourager certaines personnes à adhérer dans l'idéologie.
Merci beaucoup, Franck Kapongo. Merci. Merci, Franck, depuis Tchikapa. Joseph, vous êtes à Likassi, bonjour. Joseph, depuis Likassi, bonjour.
Bonjour, bonjour Radio Kapi.
Quelle est votre question rapidement par rapport aux dons volontaires des sangs?
Oui, je voudrais savoir en plus, personne en donnant le sang chaque fois, quel est l'effet secondaire à la jour à venir?
Voilà,
que peuvent. De ces catégories-là. Oui, je donne le sang fréquemment à l'hôpital, les gens ne connaissent bien. Je suis groupe O, maintenant je voudrais savoir, il y a un effet secondaire après avoir donné dans notre vieillesse, parce que les jours arrivent comme ces gangrènes très rapides.
D'accord, merci. Est-ce que le fait de donner régulièrement le sang, ça peut avoir... D'accord, on a compris votre question, merci beaucoup.
Oui.
Docteur Paul Kabamba, vous avez la parole.
Ok, merci. Je commence d'abord par Monsieur Franck de Tchikapa. Mm-hmm. Je crois que ses avis, ses points de vue sont vraiment, vraiment interpellateurs, quoi. Mm-hmm. En fait, ce que les gens doivent savoir, le don est gratuit. Mais le sang, quand on le traite, n'est pas gratuit. Nous disons toujours, on le dit toujours régulièrement, les personnes de la communauté donnent le sang pour que les membres de la communauté en bénéficient. Or, le sang ne peut pas passer d'une personne à une autre par magie.
Sans être traité.
Effectivement. Donc, il faut qu'il y ait des instruments, des matériels qu'on utilise pour traiter cette unité de sang. Moi, j'ai toujours dit, j'utilise toujours, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'utilise toujours la formule magique qu'on avait à l'école primaire. Mmh. Le prix de vente égale prix d'achat plus bénéfice. Nous avons payé ces sangs à combien? Pour les vendre à combien? Pour avoir quel bénéfice? Des études réalisées, et récemment même on a utilisé avec un service du ministère de la Santé, pour produire une unité de sang qualifiée, donc sécurisée, qu'on peut donner à un malade pour ne pas nuire à ces malades, on a besoin de $89 pour produire une unité de sang, c'est-à-dire...
En termes d'intrants.
En termes de ce que nous avons, les véhicules qui vont chercher le sang, collecte mobile, les gens qui y travaillent, les poches qu'on utilise, les tubes, les tests... Si on met tout ça
vous coûte $80.
Ça vous coûte $80 minimum. Maintenant, si vous regardez ce que les gens donnent pour avoir une unité de sang, c'est autour de $10, tout au plus $20-$25. Ce que les gens donnent quand ils vont chercher du sang, c'est une participation. On le dit tout, c'est une participation communautaire. Les donneurs ont donné le sang. Le CNTS, bien les structures, ont fait tout pour rendre cette unité de sang de qualité. Mais vous qui venez prendre, participez au moins à cette activité, en donnant juste un petit... nous appelons ça coût de cession, on n'appelle pas un prix. C'est un coût lié à la cession de l'unité de sang. Mais souvent, c'est beaucoup plus le gouvernement. C'est comme ça, nous remercions encore beaucoup plus le gouvernement de notre République. Beaucoup des intrants, nous recevons par moment. Ce sont des intrants qu'on reçoit. C'est le gouvernement qui met à notre disposition.
Okay.
Mais le gouvernement met les intrants. Mais pour aller en collecte, les carburants qu'on met dans les véhicules, les alcools, souvent... Et ça
c'est à votre charge.
On demande de participer. C'est la population maintenant qui participe avec le coup là. Parce que quand un membre de la famille, le donneur doit savoir d'abord, ça c'est quelque chose. Nous avons parlé avec vous ici de la catégorie. Un donneur, on dit un donneur bénévole. Donc, il n'attend rien en retour.
Oui.
Et comme il a dit lui-même, il y a des principes éthiques de ce don bénévole. Il y a le bénévolat, le volontariat, l'altruisme, la responsabilité. Et l'engagement. Donc, quand quelqu'un s'engage pour donner du sang pour une autre personne, donc il doit avoir ses principes éthiques. Or, quand on voit ses principes éthiques, nulle part, on dit qu'il faut payer, qu'il faut donner un sang à un membre de la famille. C'est comme ça que nous disons, attention, il y a des avantages qu'on peut offrir aux donneurs, mais qui ne sont pas des droits.
Okay.
Et il ne faut pas penser que quand on vous offre un avantage, parce qu'il a même lui-même dit, quand nous avons un membre de la famille, pourquoi on ne peut pas nous aider les autres? Pourquoi on ne peut pas nous aider?
Pourquoi on ne peut pas soigner son enfant gratuitement?
Non, il a utilisé le terme aider.
Aider, oui.
Donc aider, c'est-à-dire que ce n'est pas un droit. Donc c'est-à-dire on peut voir
On peut apprécier, voilà.
Voilà, vous êtes, c'est l'appréciation, la prestation, vous êtes donneur, il y a un membre de la famille. Souvent, ce sont les membres de la famille de premier degré. C'est-à-dire, le papa et la maman du donneur. Si le donneur est marié, sa femme, le papa et ma
son
papa,
enfant.
Son enfant. Mais ce sont, mais alors, on peut aller très loin. On dit tous les membres de la famille qui n'ont pas encore atteint 18 ans. Parce que c'est supposé que quelqu'un qui a 18 ans, s'il avait fait son don de sang, il aurait aussi bénéficié de son acte-là de don de sang, avoir le sang gratuitement.
Si, si.
Je crois que c'est ça.
Bien, avant de poursuivre avec...
Il y a une autre question là qu'on a posée par rapport à conseiller aux médecins. Non, non, effets secondaires.
Oui, les effets. Est-ce que le fait de donner le sang régulièrement, il y aura des effets plus tard?
C'est comme ça qu'on dit. Nous, nous avons deux types de personnes qu'on protège quand on doit faire on va faire la transfusion.
Oui.
Il y a la personne qui donne et la personne qui reçoit. Donc, la personne qui donne, on doit la protéger, on le consulte, on le sélectionne et on lui dit ce qu'il faut faire. C'est comme ça que nous disons, quand vous donnez le sang, vous devez attendre, on vous donne un repos de 3 mois pour venir faire ton prochain don. Mais ce que nous remarquons avec les payants et les familiaux, souvent ils donnent aujourd'hui, une semaine après ils donnent,
ils donnent encore.
3 semaines après ils donnent, oh là, en faisant ça, la personne elle-même,
elle se met en danger.
Elle se met en danger parce que le sang, les globules rouges naissent, grandissent, arrivent à maturation, c'est-à-dire on atteindre à un certain moment le pouvoir de transporter l'oxygène. Mais quand vous avez des globules rouges qui sont encore jeunes, parce que vous avez pris le sang aujourd'hui, le corps commence
à régénérer, reproduire
notre globule rouge. Or, c'est ce qu'on appelle, en termes scientifiques, les réticulocytes. Ce sont des globules rouges jeunes. Ces globules rouges-là ne sont pas fonctionnels. Alors, quand vous les prenez, vous les mettez chez une personne, ça peut poser des problèmes chez la personne. C'est comme ça qu'on donne. Et puis, pour vous, vous devez avoir assez de globules rouges pour vivre.
Certains disent qu'il faut prendre la tomate, les boissons sucrées pour que le sang qui ait reproduction rapide.
Ce qui est souvent très compliqué dans notre pays ou bien dans notre milieu,
oui,
ce sont les gens qui ne connaissent pas, qui nous informent et nous acceptent.
Un instant, docteur, on va accueillir les auditeurs et puis on va revenir sur cette question-là. Madame Véronique, vous êtes à Kisangani, Prosper Mbouyi de Lubumbashi et Thomas nous appelle de Kisangani, Achille de Lubumbashi. Voilà. Madame Véronique, bonjour et quelle est votre question rapidement?
Bonjour, monsieur l'animateur. Bonjour aussi à l'invité. Bon, je voulais savoir si l'invité est un médecin ou bien il est seulement agent qui travaille aux banques de sang. Parce que je voulais savoir si l'ancien système, quand on était enfant, il y avait les donneurs universels. Maintenant, pour le moment, ils sont plus. Moi, on m'avait opéré, j'avais le problème de sang. Mon groupe est rare. Donc, j'ai un groupe de sang rare, A négatif. Pour trouver le sang, c'était un problème. J'ai demandé, quand je suis allée au banque de sang pour chercher le sang, m'avait dit que ton groupe est rare. Donc, pour trouver le sang, il faut recourir aux gens qui ont le même groupe que toi. On avait cherché ces gens-là, on avait trouvé. Je leur ai posé la question que... Mais il y avait les groupes là, 00, on donnait le sang à tout le monde, les groupes 00 là. Les gens qui ont le groupe 00 là, donnaient le sang à tout le monde. Mais pour le moment, c'est comme si c'est interdit ce système-là. Pourquoi ça?
D'accord, merci Madame Véronique. Et finalement, vous avez trouvé quelqu'un qui a pu donner le sang?
On est allé le chercher. On est allé le chercher à Banalia, à Ubundu. Il faut aller le chercher. Parfois, ce groupe-là, les groupes rares là, A négatif, A B négatif, le sang la traîne là-bas au bac de ça. Il n'y a pas les gens. Mais quand moi je suis allé là-bas, j'avais un groupe rare. Pour trouver le sang, c'est tout un problème. Mais les gens, les groupes 00 là, pourquoi on ne donne plus les groupes là, c'est les donneurs universels, ils ne sont plus.
Oui, le O positif, d'accord, merci. Prosper Mbouyi de Lubumbashi, bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour monsieur Jody, et bonjour également à l'invité. Hein. J'ai une question, disons deux questions, parce que donner le sang, c'est donner la vie à la personne. Alors la question que je peux poser au docteur est la suivante. Quelles sont les conditions pour nous qui avons maintenant la volonté de donner le sang? Parce qu'avant, je ne faisais pas. Et grâce à cette édition, quand même, je suis stimulé. Quelles sont les conditions que nous pouvons remplir ou les processus à suivre pour pouvoir donner le sang? Ça, c'est un. Et d'aider, on va se limiter à quelle quantité? Et qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pour pouvoir récupérer cette quantité perdue? Merci beaucoup, M. Jody.
Bien, merci. Thomas, vous êtes à Kisangani. Bonjour, rapidement. Quelle est votre préoccupation?
Bonjour, monsieur Jody. Et bonjour à l'invité. à tous les auditeurs de la radio Capi. Je dis, moi, je pense que, en tout cas, les dons des sports bénévoles, moi, je le considère comme un acte de solidarité, mais également de générosité, mais je dis, parce que, offrir volontairement sur ça, en tout cas, ça témoigne à ce que les donneurs sont, en tout cas, des vies et soulagent la souffrance du patient qui a dans les besoins, monsieur, je dis. Mais, à cela, je tiens, j'ai des préoccupations à poser à l'invité. Je ne sais pas, monsieur l'invité, par rapport aux besoins, je ne sais pas quels sont les besoins à terme de dos de sa bénévole. Il y a l'assemblée du territoire. Je ne sais pas si, à terme des besoins, la RDC a besoin de combien à terme des dons de sa bénévole. La deuxième question, c'est, vous avez parlé ici de ça rémunéré, je crois, vous avez parlé de l'affaire de rémunérer.
Les donneurs rémunérés. Oui, la catégorie des donneurs rémunérés.
Exactement. Je ne sais pas quels sont en tout cas les inconvénients du système là de dos, l'avantage, mais également les inconvénients du système là de dos de ça bénévole par rapport au système de dos rémunéré comme le Vitali. Parce que tout le monde ne peut pas avoir quand même l'argent au bilan, justement, on va exiger de l'argent. Je ne sais pas par rapport à ça qu'on peut dégager comme avantage, mais également les désavantages en fait, mais comme vous dites. La troisième question, je vais citer par ceci, c'est aussi. Quelles sont en tout cas les mesures de sécurité et de contrôle mises en place sur la qualité des produits sanguins des données bénévoles? Je ne sais pas, parce qu'il faut qu'il y ait également la sécurité de mais également les contrôles. Je ne sais pas par rapport à la sécurité, mais également au contrôle. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place surtout pour garantir la qualité des produits sanguins donné bénévolement, monsieur.
Merci Thomas de Kisangani. Nous parlons de l'importance du don volontaire de sang avec Dr Paul Kabamba, directeur adjoint du Centre national des transfusions sanguines. Achille, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Jody, bonjour l'invité, bonjour tout le monde. Alors je voudrais poser la question à l'invité. Je ne sais pas si, monsieur l'invité, avez-vous essayer d'approcher certaines églises qui sont contre cette pratique. Si oui, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ou s'ils se sont appuyés sur un passage biblique, quelle est votre approche quant à ça? Et la deuxième question, je voudrais savoir quelle est la durée de conservation, surtout quand on sait les défis liés à l'électricité, parfois dans des zones de guerre. Et pour terminer, bon, quelqu'un m'a dit que quelqu'un qui est tatoué ne peut pas donner du sang. Est-ce que vous affirmez cela? Merci.
Eh bien, merci beaucoup, Dr Paul Kabamba.
Merci beaucoup, merci Jordi. En fait, je suis très content des avis, des questions des auditeurs. Ça montre vraiment que
c'est l'intérêt qu'ils accordent à ces
sujets. En fait, je commence par Madame Véronique de Bounia, je crois.
De Kisangani.
En fait, elle a raison. Elle a un groupe rare. Les gens, et en fait, sur le plan médical, sur le plan scientifique, même il y a une semaine, je crois deux semaines, on a découvert encore un groupe sanguin.
Rare.
En tout cas, il y a plus de 40 systèmes de groupes sanguins. Alors ça, pour comprendre, peut-être je vais aller à un niveau pour que Madame Véronique puisse comprendre. Mm-hmm. Nous avons beaucoup de systèmes dans les groupes sanguins. Il y a le premier système qu'on appelle le système ABO. C'est là où il y a les groupes A, les groupes B, les groupes AB et les groupes O.
Qui est les A négatif,
maintenant c'est ça,
A positif,
qui est associé à un deuxième système qui est les RH.
Oui.
C'est là où il y a les RH positifs et les RH négatifs. C'est comme ça que quelqu'un peut être A dans le premier système, mais positif dans le deuxième système. Il y a aussi le système KEL. Quelqu'un peut être A positif, KEL positif. Il y a le système Duffy. Il y a beaucoup de systèmes. Mais elle est parmi les gens qui sont du groupe système AB, AB0, ABO. Il est le groupe A. Mais dans le système RH, elle est négative. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un antigène sur son globule rouge qu'on appelle l'antigène D. Parce qu'il y a l'antigène A, les antigènes A, les antigènes B, les antigènes D, les antigènes KEL. Donc ce sont des antigènes. Et quand la personne reçoit le sang, s'il n'a pas ces antigènes-là, on dit toujours toute introduction d'un antigène dans un corps qui ne l'a pas, produit ça fait la production des anticorps. Donc, quand moi je n'ai pas cet antigène et que tu me donnes ton sang avec cet antigène, j'ai réagi. Je vais détruire ces sangs-là. C'est ce que cela veut dire. Mmh. Voilà pourquoi.
Mais on parlait des donneurs universels.
Voilà pourquoi on cherchait toujours pour elle un groupe semblable à elle, ah, oui. Parce qu'elle doit avoir les antigènes. Le sang qui va venir doit avoir les antigènes comme elle pour ne pas la faire du mal. Voilà pourquoi est-ce qu'on parlait déjà, jadis, la médecine a évolué, on parlait que les groupes O est donneur universel. Mmh. On pensait que les O pouvaient donner à tout le monde.
À tout le monde.
Mais les O, la particularité c'est que les O n'a pas d'antigène, mais là les deux anticorps réguliers qu'on les appelle, l'anti-A et l'anti-B. Alors quand vous donnez du sang, parce que vous voyez le sang, quand on dit le sang total, c'est le sang qui est tout rouge là. Mais c'est un sang qu'on peut séparer. Alors, quand vous donnez du sang en sang total, la personne n'a pas l'antigène, mais elle a les anticorps. Donc, c'est-à-dire que la personne qui va recevoir peut avoir les anticorps. Il peut y avoir réaction, mais les réactions sont minimes. Parce que les anticorps vont chercher les antigènes. Donc, un anticorps et un antigène qui se correspondent, quand ils se retrouvent, ils doivent se battre. Parce que l'anticorps doit combattre l'antigène. C'est ce que cela veut dire. Alors, c'est comme ça que jadis, on pensait que, oh, comme il n'a pas d'antigène, il peut donner à tout le monde. Non, ça, c'est il n'a pas d'antigène dans les systèmes ABO. Mais dans les systèmes Rhésus, comme elle est négatif à négatif, elle ne pouvait pas avoir un sang du groupe O positif.
Si on lui donnait ce sang-là, qu'est-ce qu'elle...
Elle va produire les anticorps contre ce sang, parce que comme elle, elle est A négatif, elle n'a pas l'antigène D dans les systèmes RH.
Est-ce qu'il y aura des effets sur sa santé?
Effectivement,
elle va ressentir des...
Elle détruit d'abord
oui.
les sangs qu'elle va avoir, mais ce qui est compliqué, c'est une dame. Parce qu'il y a deux façons où le corps peut fait y avoir l'immunité, donc réagir. C'est soit la grossesse, c'est soit le sang. Or, elle, comme elle est dame, si même elle n'avait pas réagi, peut-être à ce sang-là, mais le jour qu'elle aura peut-être une grossesse qui a des antigènes D, elle va détruire l'enfant. Parce qu'elle aura déjà produit... les anticorps contre ces antigènes.
Donc, c'est comme ça qu'il est important toujours d'avoir...
Il est important d'avoir toujours des informations correctes tout autour de savoir. Ça, c'est on expliquait juste à Madame Véronique.
D'accord.
Et quant à Prosper, il a demandé les conditions pour donner les sangs. Nous disons toujours, je suis très content, comme il a dit, avec des émissions comme ça, ça peut l'amener à donner les sangs. Nous avons une seule condition. Avoir cette volonté de sauver une autre vie. Maintenant, quand vous avez cette volonté de sauver une autre vie, vous vous approchez maintenant... des techniciens qui vont vous sélectionner sur base des critères, bien sûr, cliniques, biologiques, si vous êtes en bonne santé, si vous avez aussi assez de sang, parce qu'on ne peut pas prendre le sang chez n'importe qui. On doit d'abord savoir si la personne en a assez pour lui-même avant de donner à une autre personne.
Donc, il doit se rapprocher de vos bureaux, du Centre National des Transfusions.
C'est à Lubumbashi, le Centre National des Transfusions est à Kamalondo, aux côtés de le stade TP Mazembe, à côté de l'IM.
Il peut se rendre là-bas, on va lui donner toutes les informations.
IM Kamalondo, à côté du stade TP Mazembe, c'est la zone de santé de Kenya.
Ok.
Et de la commune de Kenya, il peut aller là-bas un peu. Quelle est la quantité à donner? Ici, j'ai dit, c'est le sélectionneur, quand il va parler avec vous, par rapport à votre poids, il saura quelle quantité il faut prendre, parce qu'il ne peut prendre que les 10% de votre quantité normale que vous avez pour ne pas vous faire du mal.
Et il dit après comment récupérer cette quantité-là?
Le corps récupère. Le corps
naturellement.
Le sang, quand vous donnez le sang maintenant, sur le plan de la quantité, 6 heures après, vous avez toute la quantité déjà rétablie. Quand vous donnez le sang maintenant, après avoir donné le sang, vous vous reposez seulement 6 heures après.
La
quantité revient.
Ça revient.
Le corps a ce mécanisme de reproduction. Mais c'est par rapport à la qualité maintenant, parce que je vous ai dit, les globules rouges, quand il va sentir qu'il y a un déséquilibre, bon, il va commencer à produire maintenant des globules rouges pour qu'ils grandissent et puis qu'ils arrivent à maturation.
Mais on entend certaines personnes dire « Oh, nana, maquillé, l'équipe belé, j'ai le vertige, il y a un trop plein de sang, tout
les
ça. »
Les gens doivent savoir que quand quelqu'un en a trop de sang, il faut qu'on vérifie d'abord est-ce qu'effectivement c'est le trop de sang. Parce que si c'est dans qu'il a beaucoup de sang, on doit savoir, parce qu'il y a des termes, est-ce que c'est la quantité ou bien ce sont les globules rouges qui sont en excès. Et quand les globules sont en excès, on appelle une polyglobulie. Or, une polyglobulie, ça peut être une polyglobulie idiopathique, c'est-à-dire qui n'a pas de cause, ou bien secondaire à une maladie. Et quand c'est secondaire à une maladie, la personne qui sélectionne doit d'abord savoir ce trop plein là de sang là, c'est-à-dire quoi. Et quand on a l'explication, on peut voir.
Il faut des examens pour arriver à déterminer
tout
ça.
C'est comme ça qu'il faut aller vers les spécialistes, ils vous consultent et ils vous disent et il vous donne l'attitude d'apprendre.
Docteur, avant de répondre aux autres questions, j'ai encore trois ou quatre auditeurs. On va les accueillir rapidement. Patty de Bande Nouville, Gaston, vous êtes à Kinshasa, Roger Marcel à Kin et Franck Kapumbu à Chikapa. S'il vous plaît, soyez bref dans vos interventions. Allez poser rapidement votre question pour donner le temps aux autres de participer. Patty de Bande Nouville, bonjour. Patty Maïmba, bonjour. Et quelle est votre question? Allô? Bien, je pense qu'il n'est plus... Il n'est plus là. Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour, et quelle est votre question? Et
bonjour. Un papa était malade, on l'avait amputé une jambe, et il s'est fait qu'il fallait le perfuser avec le sang. On a cherché dans la famille un membre qui avait le sang compatible. On a prélevé le sang, on a prescrit au papa, il fallait encore prélever, on a fait plus de 4 fois chez cette personne-là, et la personne qui était amputée, qu'on avait amputée, est restée en vie pendant que l'autre qui donnait le sang est tombé malade et puis il est décédé. Je voulais savoir quelle quantité il faut donner, ou soit avant de donner, quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour ne pas aussi être victime de manque de sang. Et puis la deuxième question, il semble que apparemment tout le monde, le sang de tout le monde se reproduit. Mais nous qui n'avons pas l'habitude ou qui n'ont jamais donné le sang, on peut se trouver aussi dans la situation où il y a excès de sang. Parce que celui qu'on a prélevé, ça se reproduit. Mais nous qu'on ne prélève pas, mais qui se reproduit régulièrement. Est-ce qu'il peut y avoir les conséquences ou qu'est-ce qui fait qu'on ne donne pas? Ça se reproduit et qu'on n'a pas
merci,
les problèmes.
Merci beaucoup. Merci, Maître Gaston. Roger Marcel Dekin, rapidement, bonjour. Quelle est votre question?
Oh, bonjour, monsieur. Merci pour m'avoir accordé la parole. Je pense que je pourrais beaucoup insister sur la sensibilisation. Parce que depuis que j'ai suivi l'invité, il n'a pas beaucoup parlé sur la sensibilisation. Parce que nous qui restons à Kinshasa, on a quand même le temps de suivre les radios, de suivre un peu la télé. Comme le 14 juin, on a eu à connaître que non, il faut donner le sang. Par rapport aux gens qui vivent aussi à l'intérieur du pays, pour aussi avoir connaître un peu, donner aussi le sang, c'est quelque chose qui est bon, c'est un grand problème. Je pense que l'invité pourrait encore insister sur la campagne, aller dans des coins, dans des villages, et puis sensibiliser les gens. Parce que dans la plupart des églises, il y a aussi des pasteurs qui enseignent aussi les gens, et donner aussi le sang, c'était mauvais, parce que le sang aussi fait partie aussi de la vie d'une personne. Je pense pour aller plus vite, je dois poser quelques questions. Je pense que des autres invités ont déjà répondu. Je pourrais demander c'est à partir de quel âge où on peut donner le sang? Ou il y a un âge aussi limité qu'on ne peut pas donner le sang? Mais pourquoi les gens qui ont le groupe des zéros négatifs et peuvent donner les gens aux autres gens, mais eux ne peuvent pas recevoir le sang par n'importe qui?
Bien, merci Roger Marcel de Kinshasa. Franck Kapumbu, vous êtes à Chikapa, bonjour, et quelle est votre question?
Bon, monsieur Jody, je suis revenu pour reposer encore la question à l'invité pour lui dire que je lui avais parlé sur la création des structures provinciales. Peut-être dans la province du Kasaï, on peut avoir une structure de donneurs bien installée et connue par l'État, et quelles sont les procédures pour en construire? C'était ça ma préoccupation.
Bien, merci. Merci pour toutes ces préoccupations, docteur Paul.
Je crois que je vais répondre à la dernière question, à monsieur Franck, pour lui dire que non, en fait, quand la création du CNTS, du Centre national de transfusion sanguine, on a créé le CNTS à Kinshasa, et on devait aller pour l'installation de ces structures dans les provinces. Moi, je lui dis que, moi, je suis passé déjà à Chikapa. Nous sommes en pourparler pour que Chikapa ait un centre provincial de la transition sanguine, parce qu'il n'y en avait pas. Vous devez savoir que quand nous sommes partis des 11 provinces vers les 26 provinces avec la décentralisation et la réforme, donc on équipait d'abord les 20 provinces, les 11 provinces, mais quand on est passé de 11 à 26, il fallait encore répondre. Mais il y avait des provinces où les structures de l'État, parce que quand nous voulons installer quelque chose dans une structure, l'État ne peut pas être locataire. L'État va chercher sa structure à lui ou installer. Et à Chikapa, je crois que même il y a deux mois, la ministre provinciale de la Santé était ici, on avait parlé, et on est tenté de chercher comment faire pour installer cette structure à Chikapa. Les conditions, Il y a nous avons notre coordonnateur de la transition à Chicapa.
Ok. Qui est au niveau. Vous avez un centre là-bas.
Oui. Bon, il n'y a pas un centre, mais il y a les activités.
Okay.
Mais pour lui, c'est qu'il faut qu'on cherche les bâtiments. On est en train de faire voir comment est-ce qu'on peut installer cette structure.
Mais est-ce qu'il existe des clubs de donneurs de sang? Est-ce
oui,
c'est des structures qui existent.
À Chicapa, l'ancien, oui. l'ancien parce que quand Chicapa était d'abord district, il y avait une fédération de Chicapa. Il y a, mais malheureusement, j'ai oublié son nom. Il y a, s'il va à la division provinciale de la santé, il cherche les coordonnateurs de la transition, il va les trouver. Je crois qu'ils vont discuter et très sérieusement de cette politique, de cette possibilité d'avoir ce centre-là. Il est déjà au courant.
D'accord.
Maintenant, quand on parle ici de la sensibilisation, effectivement, en fait, à cette émission, on nous a pris par des questions. Mais malheureusement, les questions, beaucoup de gens ont poser des questions par rapport aux gens qui en bénéficient, comment faire, mais n'ont pas parlé par rapport à ça. Monsieur Jordi vous a dit ici que le taux de donneurs bénévoles dans au pays est très faible.
Très faible.
Moins de 50%, mais l'OMS recommande 80%. Mmh. Effectivement, les sensibilisations, il faut, c'est tous les jours ici qu'on doit sensibiliser, mais vous devez savoir que la sensibilisation par rapport au don de sang, c'est que la personne doit faire sortir de son corps un liquide qu'il a de plus précieux. Que pour les convaincre, il faut donner toutes les astuces possibles pour que la personne arrive à voir. Mais les sensibilisations continuent. Comme ça, je remercie la radio Okapi pour cette émission. C'est aussi une voie de sensibilisation. On vous donne. Parce que souvent, les gens n'adhèrent pas à une activité, à une activité parce qu'ils ne comprennent pas cette activité est liée à quoi. C'est comme ça que toutes ces questions qu'on pose ici, peut-être avec les explications, les gens vont comprendre que non. Nous devons aller pour sauver nos frères.
Quelqu'un a dit quelles sont les mesures de sécurité par rapport à la qualité des sangs.
Effectivement. C'est comme ça que nous parlons. Quand nous parlons de la transfusion, nous disons que la transfusion, c'est une chaîne d'activité qui commence du donneur au prélèvement jusqu'à ce que la personne va recevoir ses sangs. Et la mesure de sécurité, c'est sur chaque étape. Quand une personne vient donner le sang, c'est comme ça, vous avez vu, il y a un papa qui a parlé ici que quelqu'un qui était amputé, on a prélevé plusieurs fois chez les membres de la famille, la personne qui était amputée a eu la vie sauve, mais la personne qui a donné est décédée. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris toutes les précautions pour voir est-ce que on a pris assez du sang à ses papas, est-ce que c'était suffisant pour les protéger. C'est comme ça que nous disons, nous protégeons deux personnes. C'est la personne qui donne, on doit la protéger sérieusement, elle doit rester en bonne santé après son don de sang, et la personne qui reçoit. Et quand la personne qui reçoit la protéger, c'est-à-dire quoi? On doit suivre le processus, on doit bien collecter, bien conservé. Ici, quelqu'un a parlé de la durée de conservation, c'est combien? Bien conservé. Et quand on va transfuser, qu'on fasse le test de compatibilité pour que le sang qui va entrer chez la personne ne puisse pas apporter des problèmes que des solutions. Ici, quelqu'un a dit, non, est-ce que nous qui donnons pas, au fur et à mesure, on va avoir un excès de sang?
Un excès de sang, voilà.
Parce que les gens qui donnent, ça se renouvelle. Même les gens qui ne donnent pas, ça se renouvelle.
Ça se renouvelle toujours.
Les gens doivent savoir que quand nous, souvent, et quand nous allons faire notre petit besoin ou bien notre grand besoin, c'est le sang qui passe.
Même le sang, sueur.
Oui, mais la sueur. Le sang là, la couleur rouge et jaunâtre des urines, c'est une composante sanguine. Parce que le sang, je vous ai dit, les globules rouges naissent, grandissent, arrivent à maturation et puis se détruisent. 120 jours après, les globules rouges sont détruits. Mais ils vont sortir du corps comment? C'est comme ça qu'ils utilisent des mécanismes, le corps utilise des mécanismes pour faire sortir, soit par la voie urinaire, soit par la voie stéricorale, c'est-à-dire par les grands besoins. Donc, le corps renouvelle son sang tous les jours.
Et les femmes aussi perdent par les menstrues.
Oui, c'est une précision par rapport aux femmes, mais même les hommes, leur sang se renouvelle très, très rapidement.
Achille parle de certaines églises à cause de certaines convictions religieuses. Il y a des gens qui n'acceptent pas la transfusion sanguine.
Moi, j'ai toujours dit, il faut faire la part des choses entre la doctrine et la science. Nous sommes des scientifiques, on fait ce qu'il est. Parce que nous disons que nous les médecins, nous avons avec les malades un contrat de moyens. Et non pas un contrat de résultats. Les moyens qu'on a mis à notre disposition, pour prendre le sang, pour sauver ce que nous faisons. Nous ne voulons pas entrer dans les dimensions.
Parce que certains disent que si on prélève le sang d'un voleur, on vous donne ce sang-là, vous risquez de devenir voleur aussi.
Je vais dire aux gens, la personne qui a mis en premier lieu la banque de sang noir, un Américain, et il y a eu cette histoire de dire que le sang des noirs ne peut pas aller aux blancs, les blancs ne peuvent pas aller. Non, non. Ça, c'est des problèmes. En fait, c'est ce qu'on dit. mon peuple périt par manque de connaissances. Si vous avez, vous n'avez pas d'informations, rapprochez-vous des gens qui ont des informations pour qu'on vous donne les informations pour que vous changiez des comportements et sauvez des vies humaines par votre don de sang.
Docteur Kabamba, quelle est la durée de conservation d'une poche de sang?
Ça dépend des, parce que je vous avais dit ici qu'il y a des éléments figurés et le plasma. Nous, le CNTS et quelques structures de nos provinces, nous avons cette capacité de séparer les sang, les éléments du sang. On peut garder les sang en globules rouges seulement, on peut garder les gens en plaquettes seulement, on peut garder les plasma en plasma seulement. Et chaque composante sanguine plutôt a une durée de conservation. Les globules rouges, c'est au-delà, 35 jours après, il faut les jeter parce qu'on va se détruire. Les plaquettes, on les prépare, on les conserve 5 jours après. Le plasma, ça peut aller à conservation à des températures très très basses, de moins 20 degrés, moins 40 degrés, jusqu'à une année ou deux ans. Donc le délai de la durée de conservation dépend de l'élément sanguin que vous avez préparé et que vous devez conserver.
Bien, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. On va accueillir Patty de Bandonouville. Bonjour.
Bonjour cher Daniel et bonjour à notre invité et tous ceux qui nous suivent.
Oui, Patty Mahimba, quelle est votre question?
Pour laisser du temps à notre invité. L'invité a soulevé un point là, il parle et son scientifique, hein, mais cette même science là nous dit les ancêtres lointains de l'homme, ce sont des animaux, il nous parle de lycanthropes, des reptiliens jusqu'à l'homo sapiens et puis l'homme. Mais le sang qu'on peut transférer à un humain ne peut pas provenir d'une autre espèce. Mais ces ancêtres-là, si on prenait l'homo sapiens, on ne peut pas tirer de son sang et puis on...
Allô, Patty, on vous capte pas très bien. Est-ce possible de vous déplacer un tout petit peu? On vous capte pas très bien.
Allô?
Oui.
Ça va?
Oui, allez-y, maintenant ça va.
Oui, j'ai demandé, la science dit, l'homme a pour les ancêtres communs, néandertaliens,
homo sapiens, tout ça. Oui.
Alors, l'invité dit que le sang d'un humain ne peut pas provenir d'une autre espèce. Maintenant, si on prenait l'homo sapiens, on s'y tirait de son sang, on ne peut pas mettre ça chez l'homme.
Mais l'homo sapiens, là, aujourd'hui, tu vas les trouver où? Patty, où est-ce que vous allez les trouver? Six homo...
Ah, donc, il ne vous plaît.
Maintenant, en tout cas, moi, je ne sais pas où est-ce que vous allez trouver ces homo sapiens là aujourd'hui pour prélever leur sang. Voilà. Et une autre question?
Bon, oui, la deuxième. Avant qu'il y ait le système de transfusion ici, comment nos ancêtres recevaient le sang en cas de perte de sang, en cas de l'anémie? Il n'y avait-il pas de formule autre qui le faisait pour qu'aujourd'hui, que l'invité nous dise que le sang ne peut pas provenir d'autre part ailleurs si ce n'est pas celui qui est tiré chez l'homme? Et pour finir,
oui,
est-ce que la réponse que l'invité a donnée, de la manière dont les donneurs donnent et les prix qu'ils viennent revendre ce sang-là, cette réponse-là, il a bien jugé ça. Il dit, et pour avoir ce sang-là, ils ont dû dépenser plus de $80. Et c'est quand ils vendent aux malades, c'est moins de $25. Maintenant, celui qui a donné, lui, reçoit quoi? Et puis les $80-là, ils ont calculé ça comment?
D'accord.
Ils ne sont pas un peu modérés, ces côtés-là. Hein? Ils ne sont pas modérés. Et vendent les gens, les sang très cher. Donc, ils font de l'argent. Mais nous qui donnons, on donne gratuitement. Et ils font beaucoup d'argent. Et cette personne qui réveille un peu cette logique-là, ce n'est pas clair, c'est flou.
Bien, donc, merci. Merci. Docteur Kabamba va clarifier les choses tout à l'heure. Docteur, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup. C'est très gentil, l'auditeur. En fait, moi, je n'ai pas dit, il faut bien me comprendre. J'ai dit, les coûts pour rendre une unité de sang de qualité, ça nous coûte, ça nous prend autant d'argent. Je n'ai pas dit que vous qui donnez ou bien les gens qui venaient prendre vont payer cet argent. Je l'ai bien dit. Le donneur est dans la communauté. Le receveur est dans la communauté. Vous, comme vous êtes là, monsieur Patty, vous avez voulu donner le sang à un receveur. Vous allez le faire comment? Si le Saint-Esprit ne vient pas, si la structure ne vient pas, votre sang partira de vous vers les receveurs communs. Il faut qu'on ait des histoires, des matériels qu'on va utiliser pour prendre votre unité, votre sang, on les qualifie pour qu'on puisse donner. J'ai dit bien, c'est que le Saint-Esprit vient à vous pour vous aider, vous, à sauver des vies humaines. Mais les gens qui prennent ce sang-là, j'ai parlé d'une participation communautaire pour faire de sorte que les activités ne puissent pas, pour qu'il y ait une pérennisation des activités, aller faire les collectes, tout ça. Je n'ai pas dit que vous, les gens qui donnent, on leur donne comment, quoi, et les gens qui reçoivent doivent donner quoi. Mais j'ai dit les gens qui donnent, nous venons vers eux, nous utilisons les carburants. Nous utilisons la collation qu'on leur donne.
Les intrants.
Nous utilisons les intrants. C'est tout ça que nous disons que si on les mettait, eh bien, si on devait valoriser ça et donner le prix d'une unité de sang, ça coûterait autant. Je n'ai pas dit que vous devez, les gens qui donnent l'argent doivent payer cette unité de sang. Non, qu'on se comprenne très, très bien. Je dis bien, c'est nous, les donneurs sont dans la communauté. C'est les donneurs qui doivent dire, nous, voilà ce que nous devons faire pour sauver. Maintenant, quand vous dites que vous devez sauver une vie humaine, le sang qui est dans votre corps partira de votre corps comment pour aller chez un receveur? Il faut qu'il y ait des matériels qu'on va utiliser. C'est ce que la personne qui va recevoir participe à ce qu'on a, à tout ce qu'on a fait autour du sang pour qu'il bénéficie. Voilà pourquoi est-ce que il y a une personne qui a dit qu'on parle beaucoup de la sensibilisation. C'est ça qu'il faut expliquer maintenant aux gens, que les gens comprennent que les structures ne font pas de bénéfices sur les unités de sang que vous donnez. Nous, nous sommes là, je peux même inviter le monsieur qui a parlé de ça, venir au CENTES. Je ne sais pas s'il a déjà visité le CENTES, qu'il vienne au CENTES.
Le Centre National de
Transfusion Sanguine qui se retrouve à Bandal, à côté de l'école Joël.
Il est à Bandounouville, peut-être les jours où il sera.
Ah, il est à Bandounouville, il peut aller même au niveau de Plateau, là, le quartier Plateau, là où il y a notre centre provincial de transfusion de Kikwit. Et à Bandoundou, il y a aussi nos structures là-bas. Qu'il aille là-bas, qu'on lui explique clairement, qu'il comprenne. Parce que s'il comprenait, d'ailleurs, il sera un grand sensibilisateur pour que les gens donnent beaucoup de sang.
D'accord. Merci beaucoup, Dr. Paul Kabamba Muninga, directeur adjoint du Centre National des Transfusions Sanguines. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au Quotidien. Merci de l'avoir suivi. Nous disons merci à toute l'équipe de production, Teti Mapoukou, Dieudonné Nyangassa, Paul Badianyama. Jody Daniel était au micro. Merci. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.